Priorité Santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous sommes à Montpellier à l'occasion de la 7e conférence internationale francophone sur le VIH et les hépatites. On parle de la prévention et du traitement des infections à VIH chez les enfants. Quatre invités autour de cette table, ils sont tous les quatre d'ailleurs médecins épidémiologistes, deux au nord, deux au sud, mais tous travaillent sur le continent africain. Docteur Valériane Leroy, qui est directrice de recherche INSERM à Bordeaux. Le docteur Philippe Messelati, qui est directeur de recherche à l'IRD. Il est basé sur le site ANRS de l'hôpital central de Yaoundé au Cameroun, le docteur Mathurin Tedjokem qui est chargé de recherche au centre Pasteur du Cameroun et le professeur Nicolas Méda qui est directeur général du centre Muraz à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Docteur Philippe Messelati, vous aviez envie de réagir, on était juste avant les informations en train de parler de la question du diagnostic, il faut faire un diagnostic le plus précocement possible chez ces bébés qui peuvent être atteints par le VIH-SIDA. On a compris que c'était faisable dès 6 semaines, mais en fait ce qui est compliqué c'est que ce test soit disponible sur le continent africain et surtout que les populations les plus reculés puissent en bénéficier, c'est ça, docteur Messelati?
Oui, d'une part, comme a pu le dire docteur Tedjokem, si je reprends l'exemple du Cameroun, on a 2000 sites de PTME, on a presque
prévention de la transmission mère-enfant,
presque 3000 sites de prévention transmission mère-enfant, et on a 450 sites où le diagnostic diagnostic précoce est disponible sur papier buvard. Donc déjà, il y a 75% des sites qui n'ont pas accès, même au papier buvard. Et puis le papier buvard, c'est toujours pareil. On a des moyens techniques qui sont très bien. Mais la logistique, la réalité des faits, le temps qui passe, les gens qui sont pas à l'aise pour annoncer les diagnostics font que le papier buvard va dans la capitale, enfin, ou dans le laboratoire de référence, revient, le résultat dure, et la maman va pouvoir se présenter une fois, deux fois, trois fois, et on n'est toujours pas capable de lui donner son résultat parce que le résultat n'est tout simplement pas parvenu au site où elle a amener son enfant. Et au bout d'un moment, la maman, elle se décourage, ou l'enfant est malade et elle va partir dans des circuits thérapeutiques très différents, et du coup, ou l'enfant meurt, et on a effectivement que 10% des enfants, au Cameroun comme au Burkina, qui ont accès au diagnostic précoce et à la prise en charge éventuellement précoce, parce qu'après, on a encore des déperditions.
C'est ça. Donc en fait, le point de départ le plus compliqué, déjà, c'est la question du diagnostic, mais après, il y a la mise sous traitement. Professeur Nicolas Méda, le traitement dans ces cas-là, c'est quoi? On découvre, donc, dans le meilleur des cas, à 6 semaines, on a diagnostiqué que l'enfant était porteur du VIH-SIDA. Qu'est-ce qu'on fait? On le met tout de suite sous traitement? Il y a des traitements adaptés?
Absolument. On revient dès juillet 2013, où il y a encore de nouvelles recommandations qui disent que un enfant infecté par le virus du sida qui a moins de 5 ans est traité systématiquement si son diagnostic est mis en évidence. Et c'est la trithérapie avec des présentations pédiatriques qui sont limitées mais qui existent. Malheureusement encore, c'est le problème d'accès. Autant ils n'ont pas accès au diagnostic, autant ils n'ont pas accès au traitement. Sur 15 000 enfants infectés au Burkina, il y a 1200 qui sont sous traitement à ce jour, et vous comprenez le gap.
1 sur 15, c'est ça. Donc,
vous comprenez le gap d'accès au traitement. C'est totalement la différence avec les adultes qui sont vraiment en montée en puissance.
C'est ça. On dit que la moitié des adultes dans le monde, à peu près, sont sous traitement. C'est pas du tout le cas pour les enfants. On est bien en dessous. Vous vouliez réagir, docteur Tedjokem.
Oui, Claire, si vous permettez, je voudrais illustrer un peu ce que le professeur Nicolas Méda vient de dire en prenant un peu les datas que nous avons eues dans le cadre de notre étude pédiatrique au niveau du Cameroun, où on a mis en place cet accès au diagnostic précoce et cette proposition de traitement encadrée par un projet, donc avec une coordination bien précise. Et dans ce projet où le diagnostic précoce était proposé à 6 semaines, où le diagnostic était rendu à 10 semaines avec une organisation pour démarrer le traitement avant 14 semaines, parce qu'on avait calqué tout ça sur le programme élargi de vaccination afin de minimiser les visites sur les sites, nous nous sommes rendus compte que même avec cet encadrement, on a un tiers d'enfants qu'on n'arrive pas à traiter avant 4 mois. C'est-à-dire que même dans le cadre d'un projet où on a mis tous ces éléments en marche pour assurer ce diagnostic avec des résultats qui sont disponibles avec
cette discussion. Pourquoi on n'arrive pas
à faire ? Essayé de discuter. Globalement, on se rend compte premièrement que il y a des difficultés du côté des prestataires qui sont liées au fait qu'en général, lorsque le diagnostic il est réalisé à 6 semaines avec un rendu des résultats et que l'enfant, dans sa situation, ne présente pas les signes cliniques, il y a une petite réticence à démarrer les traitements tout de suite parce que on souhaite faire toutes les autres analyses pour être certain qu'il n'y a aucun problème. Et de l'autre côté, il y a, dans le cadre des recommandations, ce qui n'est pas clairement élucidé, c'est la question des comités thérapeutiques qui prennent un peu de temps pour préparer à la fois le patient, les familles à accepter la situation de l'enfant, à accepter les traitements et à voir comment donner ces traitements. On n'indexe pas trop cette question. Pourtant, elle prend du temps, elle consomme du temps dans la mise sous traitement des enfants. Et également, on a vu quand même que lorsque l'enfant est malade, lorsque l'enfant présente les signes, alors tout le monde va vite. C'est très rapide.
Or, il faudrait agir avant.
Agir avant pour que les choses marchent.
Docteur Mselati, c'est justement ça qui vous intéresse et c'est ce sur quoi vous travaillez au Cameroun. C'est comment aller toucher ces enfants qui ne bénéficient pas des traitements. Et alors, justement, dans vos études, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pourquoi on n'arrive pas à faire mieux?
Alors, là, il ne s'agit plus du diagnostic précoce. C'est-à-dire que le diagnostic précoce est quelque chose sur lequel on se focalise tous parce que on sait qu'ils sont très difficiles à atteindre et qu'on voudrait les traiter le plus tôt possible pour éviter la mortalité de ces enfants, puisque sans traitement, la moitié des enfants infectés sont considérés comme potentiellement morts dans les 2-3 premières années. Mais, en fait, la situation est encore plus compliquée que ça. Il y a, si on regarde toutes les files actives où on suit des enfants sous traitement, la moyenne d'âge de ces files actives est de 5-6 ans. 4-5-6 ans. Ce qui indique, comme l'indique une moyenne, qu'une partie de ces enfants a plus que 5-6 ans au premier contact avec le système de santé où on le repère VIH+. Or, pendant longtemps, avant que les traitements existent, on considérait qu'au-dessus de 5 ans, on n'avait plus d'enfants VIH+, infectés, circulants. On pensait qu'ils étaient tous morts.
C'est ça.
Et même les soignants. Une grande partie des soignants, à part les pédiatres et les spécialistes de VIH, disaient de toute façon, au-dessus de 5 ans, c'est même pas la peine de chercher
Donc
le VIH.
Donc on faisait pas le test.
Ils sont morts. Oui, c'est ça. On va pas chercher le VIH. Le gamin vient pour un palu, et puis il revient pour un palu, et puis il revient pour un palu, et c'est toujours un palu, mais il en a 5 des palus, et puis il a de plus en plus de trucs qui ressemblent à la tuberculose. Mais on va. Et puis c'est un jour, il y a un médecin un peu plus préparé que les autres qui va dire, et si c'était le sida? Mais le gamin a 7 ans, 8 ans, il a passé 3, 4, 5 ans dans un itinéraire thérapeutique extrêmement douloureux, et ce n'est qu'à cet âge-là qu'on découvre qu'il est infecté et qu'on le traite.
Et pourquoi c'est embêtant de le traiter si tard?
Parce que si, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on a dit ce matin en plénière ici, et c'est ce qu'on dit depuis quand même quelques années, plus vous traitez tôt et mieux c'est. Donc si vous avez un enfant de 6 semaines que vous êtes capable de traiter, c'est ce que je montrerai là encore cet après-midi par des petits cas cliniques, le destin d'un enfant traité à 6 semaines par ARV est complètement différent du destin d'un enfant qui arrive avec 5 CD4, 5 cellules CD4, ce qui montre une immunité extrêmement aggravée à 10 ans, malade, et tout. Il va peut-être survivre. Mais lui, ça devient peut-être. Alors que les tout-petits, s'ils sont mis sous traitement, ils ont toutes les chances de survivre parce qu'ils ne sont pas symptomatiques.
Docteur Valériane Leroy, ces traitements pédiatriques, est-ce qu'ils sont adaptés aux enfants? Est-ce qu'ils sont justement à dose suffisamment, je sais pas si c'est faible le terme, mais pour être adaptés à des corps d'enfants?
Alors, le traitement des enfants n'est pas celui des adultes et il nécessite d'avoir des formulations pédiatriques qui soient adaptées aux enfants avec plutôt des formes sirop. Maintenant, malheureusement, on peut déplorer le
fait que... C'est mieux en sirop qu'en cachet, quoi.
C'est mieux en sirop qu'en cachet parce que les enfants petits ne peuvent pas avaler des cachets adultes qui font à peu près 2 cm de grosseur, donc qui sont difficiles à avaler pour des petits. En revanche, aujourd'hui, on essaye d'avoir une recherche pour essayer de mettre en place des traitements et de trouver, d'évaluer des nouvelles formulations pédiatriques, mais c'est pas aujourd'hui, ça fait pas partie des axes de recherche prioritaires
de l'industrie pharmaceutique.
Pourquoi?
Parce qu'entre guillemets, c'est...
Parce que c'est pas une population sans doute très solvable, sans doute très intéressante, sans doute il y a plein de raisons, mais même en dehors du sida, la recherche sur les formulations pédiatriques et souvent en retard. Et donc, c'est une vraie question qui se pose, mais plus sur la prise en charge et la capacité d'une société à s'intéresser à la santé de ses enfants.
Docteur Mselati, j'ai l'impression que vous aviez envie de réagir, de rajouter un élément. Non, pas du tout. Bon, c'est très bien. Je peux donner
sur les formes,
Nicolas.
Oui, sur les formes, voilà, sur les formes. Donc, il y a des sirops, mais sachez que les sirops, c'est quand même un problème à gérer au quotidien, surtout dans les pays du Sud.
Bah, parce qu'il faut les garder au frais.
On
c'est ça
doit les garder au frais. On n'arrive pas à les distribuer. Pour l'enfant, c'est un goût d'alcool qui est absolument impossible et qui est très amer et impossible à boire. On maltraite ses enfants.
Il n'y a pas d'alcool. Mais c'est un goût d'alcool.
C'est un goût d'alcool. C'est très amer. Et je vous mets au défi de prendre ce traitement tous les jours parce que vous vous sentiriez maltraité. Donc, on a vraiment des efforts à faire dans l'acceptabilité de ces traitements antirétroviraux qui manquent aujourd'hui, qui sont pas faciles à distribuer, qui sont pas faciles à conserver, que les programmes nationaux n'aiment pas distribuer parce que c'est compliqué pour eux. Et donc, il y a une tendance à utiliser maintenant ce qu'on appelle des formes orodispersibles, mais qui ne sont pas encore toutes ce que l'on appelle bioéquivalente, c'est-à-dire la forme moins efficace, c'est quelque chose qui va être exactement moins efficace. C'est quelque chose qui va se dissoudre dans l'eau, comme aujourd'hui on a des comprimés qui se dissoutent dans l'eau, effervescents. Et ça, c'est très intéressant, c'est facile à conserver, à distribuer, et c'est beaucoup plus opérationnel. En revanche, elles sont pas toutes efficaces, et donc il y a une partie des antirétroviraux qui sont redispersibles, qui sont efficaces sur le terrain, mais pas toutes encore. Et on doit absolument continuer la recherche pour essayer de trouver ces formes redispersibles et les rendre disponibles.
Priorité santé sur RFI.
Et nous sommes aujourd'hui donc à Montpellier pour la 7e conférence internationale francophone sur le VIH et les hépatites. On parle de la prévention et du traitement des infections à VIH chez l'enfant. On a Franck qui nous appelle. Non, on l'a pas. On devait avoir un auditeur en ligne qu'on n'a pas finalement. Docteur Mathurin Tedjokem, j'aimerais bien qu'on parle d'une étude que vous menez en ce moment et dont vous allez parler pendant cette conférence. C'est la séronégativation des enfants infectés par le VIH traités avant l'âge de 6 mois. De quoi s'agit-il? Expliquez-nous.
En fait, comme je le disais tantôt, l'étude Pédiacam que nous avons lancée au Cameroun dans 3 sites de référence, le Centre Mère Enfant de la Fondation Chantal Biya, l'hôpital La Quintinière à Douala et le Centre Hospitalier des SOS sous la coordination du Centre Pasteur du Cameroun, avait comme objectif de rendre possible ce diagnostic assez tôt et tout de suite d'évaluer la faisabilité des traitements antirétroviraux administrés précocement aux enfants. Et globalement, on a identifié ces enfants assez tôt, avant l'âge de 7 mois, et chez ces enfants, nous avons démarré des traitements. Ces traitements sont suivis pour la plupart de ces enfants, et aujourd'hui on est pratiquement à 3 ans de suivi pour l'ensemble des enfants au minimum. Et la question qui se pose et que nous allons discuter aujourd'hui à cette conférence, c'est cette question de séronégativation. Une question qui est un peu anecdotique, mais qui rentre dans l'actualité, c'est ces enfants qui sont, bien entendu, infectés par le VIH, il faut clairement le dire, qui sont sous traitement antirétroviral, mais qui, pour quelques-uns, ne présentent pas d'anticorps VIH. Et la question qui se pose pour l'instant, c'est quel est le mécanisme qui pourrait expliquer cette situation. C'est vrai, ce mécanisme n'est pas complètement élucidé, mais on pense que ces enfants qui ont été traités très tôt ont eu une suppression virale très rapide, ce qui fait que l'organisme n'a pas été très très sensibilisé contre le virus et donc ils ont cette faible production d'anticorps. On pense également que, comme certains l'ont décrit ailleurs, ça pourrait être des questions génétiques ou même des questions liées au type de virus. Donc nous voulons présenter.
Et ça voudrait dire quoi sur ces enfants-là? Donc quasiment finalement on voit plus le virus, si je comprends bien ce que vous voulez dire. On pourrait arrêter les traitements? Est-ce que ça voudrait
non,
dire
non,
ça
pas, non, pas vraiment. Je suis en train de le préciser. Je le reprécise. Je dis, ces enfants...
Non, j'ai posé la question qu'il ne fallait pas poser. Mais en fait, si je la pose, il y en a d'autres qui se la posent. C'est ça. Ce que je me dis.
Ces enfants, je voudrais repréciser. C'est des enfants qui sont infectés parce qu'on continue, pour quelques-uns, à voir le virus. Mais la seule chose, c'est qu'on ne trouve pas d'anticorps chez ces enfants. Les anticorps, c'est bien différent du virus. les anticorps sont produits...
pour réagir au virus, justement.
Oui, mais le virus reste présent. Et il faut préciser que ces enfants restent sous traitement. Donc pour nous, pour l'instant, il n'est pas question
d'arrêter le traitement. On continue le traitement. C'est important de le préciser.
C'est la question importante. Il faut continuer les traitements.
J'imagine que les parents, ils doivent poser à peu près la même question que la mienne.
Oui, certainement. C'est une grosse question parce que c'est la première implication qu'on a. Première grosse implication, c'est que si on rend ce résultat à un parent et qu'on ne lui explique pas clairement ce que ça veut dire, on peut risquer d'avoir des problèmes d'observance de traitement. Et puis aussi, vous pouvez imaginer que ça décrédibilise un peu le personnel médical vis-à-vis de ses parents qui, à un moment, ils se disent « qu'est-ce qu'il est en train de me raconter ?»
C'est compliqué, c'est quand même une notion compliquée. Mais il faut continuer le traitement. Mais du coup, évidemment, j'ai envie de vous poser la question du bébé du Mississippi. Expliquez-nous cette histoire. On a l'impression, alors je pense qu'il ne faut pas parler de guérison, mais plutôt de rémission. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet enfant dont finalement, pour l'instant, il a arrêté les traitements et tout va bien, entre guillemets?
Oui, le cas du bébé de Mississippi, c'est un cas qui vient apporter encore quelque chose de très intéressant aux recommandations de l'OMS qui disait déjà qu'il fallait traiter très tôt pour réduire la mortalité et la morbidité. Ce cas vient également apporter des éléments pour nous encourager à essayer de mettre des enfants.
Mais expliquez-nous ce qui s'est passé pour ce bébé.
Donc c'est un enfant qui est né. Le cas a été présenté l'année dernière à La Creuil, à la conférence internationale aux États-Unis sur les retrovirus et les infections opportunistes. C'est un enfant qui est né à 35 semaines de vie, donc pratiquement un prématuré, d'une maman qui n'avait pris aucune disposition dans le cadre de la prévention de la transmission mère-enfant, et dont, au vu de ce risque, dans ce contexte de pays bien avancé dans la prévention, un traitement
a été mis en place
à la 30e heure de vie. L'enfant, bien entendu, il a été diagnostiqué comme infecté. Donc, en ce moment, c'était un traitement.
Donc traité pendant combien de temps cet enfant?
Pendant 18 mois. Et puis cet enfant, il a été
ce qu'on appelle perdu de vue, hein, c'est ça.
Voilà,
donc
c'est
la
ça,
maman
il faut
a
le
arrêté
clairement.
Les traitements.
L'enfant a été perdu de vue. Il n'a été revu que un peu plus de 6 mois après cette situation. La maman avait arrêté le traitement et l'équipe qui a reçu cet enfant, l'équipe de Déborah Perso, a constaté que en l'absence des traitements, cet enfant, non seulement il allait bien, mais seulement il avait plus beaucoup de stigmates qui le reliaient à une infection VIH. Et cette année encore en mars, ils ont présenté la suite de la situation de cet enfant qui continue à aller mieux. Donc, comme je dis, c'est un cas pour l'instant, un cas d'un enfant en rémission, guérison fonctionnelle, qui ne prend plus de traitement mais qui va bien. Donc c'est un espoir.
Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les traitements.
Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les traitements.
Prudence.
C'est un enfant qui nous donne l'espoir que peut-être en mettant les enfants plus tôt sous traitement, on pourrait arriver
Mais aujourd'hui, on n'arrête pas les traitements quand on est sous
traitement. Et peut-être même que ça va nous permettre de comprendre un peu mieux les mécanismes.
D'accord, merci beaucoup. On a Franck qui nous appelle de Lusaka. Franck, bonjour. On a des problèmes avec la ligne téléphonique. Si, vous êtes là en direct. Oui, Franck, on vous écoute.
Oui. Oui, bon, nous avons deux préoccupations parce que moi et madame, nous sommes sous traitement. Mais malheureusement, 4 jours avant la naissance de notre dernier bébé, nous étions à court de médicaments. Alors, je voulais poser la question à vos intervenants, question de savoir, est-ce que y a-t-il un risque que notre bébé ait été infecté?
Alors, ça va être compliqué de répondre peut-être à distance. Votre bébé, il a quel âge maintenant?
Il a 4 mois. Il a 4 mois.
Et est-ce que du coup, il a été testé?
Le bébé n'a jamais été testé. Hein, c'est-à-dire que 4 jours avant que madame le mette au monde, nous étions à court de médicaments. Et aujourd'hui, nous continuons à donner le traitement au bébé jusqu'à 4 mois et nous continuons. Est-ce qu'il y a-t-il de risque d'infection et le fait de continuer comme ça avec le traitement présente un danger pour le bébé?
Alors, Philippe Zelati, est-ce que vous pouvez répondre? C'est compliqué de répondre à distance. C'est compliqué de répondre à distance.
Non, je peux.
Ouais. Allez-y, on vous écoute.
S'il est en ligne. Donc, au départ, c'est eux, le couple, qui était en manque de traitement. 4 jours avant l'accouchement. Ce n'est pas le bébé. Et donc, je ne sais pas s'il peut répondre. Est-ce que c'est eux qui avaient un traitement qui manquait?
Oui, ou... c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai compris, Franck. C'est vous qui avez plus de traitement. D'ailleurs, c'était quoi? Une rupture de stock de traitement?
D'accord.
Oui, il y avait une rupture de stock pour madame, hein, pour madame, 4 jours avant la naissance du bébé.
Et moi, ce que j'ai pas compris quand même, est-ce que votre enfant a été diagnostiqué à la naissance? Est-ce qu'il y a un diagnostic qui a été fait?
Bon, chez nous ici, je ne sais pas, il n'y a pas ce mécanisme-là. On nous a dit d'attendre jusqu'à 18 mois par le médecin. Hein, il nous a dit d'attendre jusqu'à 18 mois. C'est alors qu'on saura si le bébé...
C'est dit non, mais c'est la réalité de ce que vient de vivre Franck. Donc, en soi, à Lusaka, il y a moyen de faire ce diagnostic.
Oui, je ne suis pas un spécialiste de Lusaka, mais je suis quasiment certain qu'à l'université de Zambie, et chez des collègues qu'on connaît, il y a certainement la possibilité de faire un diagnostic de PCR. La seule chose, il est peut-être un peu plus coûteux que les tests de dépistage, ça je ne sais pas la situation à Lusaka, mais il y a certainement la possibilité de faire un diagnostic, l'enfant a 4 mois. Par contre, ce que j'aimerais bien préciser, parce que je n'ai pas compris là, vous dites que l'enfant est sous traitement, mais il est sous traitement de quoi? Il a quel traitement, votre enfant?
Le médecin nous avait demandé de donner le médicament, la trithérapie, hein, jusqu'à 6 semaines, après la naissance. Bon, du fait que moi, je me rappelle toujours de ces 4 jours-là, je me dis, bon, si le bébé est infecté, tant mieux pour moi de continuer avec le traitement pour ne pas le mettre en danger. Voilà.
Professeur Médard.
Voilà.
Moi, donc, ce que je trouve intéressant, en tout cas, c'est qu'on comprend bien que c'est compliqué, qu'on n'a pas forcément tout bien expliqué à Franck, qui a du mal d'ailleurs à nous réexpliquer ce qui se passe. Pour moi, c'est assez révélateur de la façon dont l'information est transmise du médecin aux parents et donc à l'enfant. Nicolas Médard.
C'est vraiment illustratif des difficultés qu'on a relatées il y a peu. Et donc, globalement, à Lusaka, il y a des capacités démultipliées plus que en Afrique de l'Ouest, francophone, où l'accès au diagnostic pédiatrique est compliqué. Mais à Lusaka, je confirme qu'il y a vraiment plus de moyens. Et il suffit d'aller au centre d'excellence pédiatrique de l'hôpital central de Lusaka, où il y a docteur Chipepo Kankacha, qui peut diagnostiquer rapidement
et faire un diagnostic.
Mais je voulais préciser le risque pour l'enfant. Donc la transmission, la prévention de la transmission mère-enfant, si cet enfant, avec sa mère qui était sous trithérapie pendant la grossesse, on a des réponses claires en disant qu'autour de l'accouchement, généralement, si le traitement dépasse, avant l'accouchement, dépasse 13 semaines, on arrive à peu près à la négativation de la charge virale autour de l'accouchement. Et le risque de transmission est vraiment faible, moins de 1%. En France, tous les enfants arrivés à négativation autour de l'accouchement, il y a zéro infection dans la cohorte pédiatrique française. Et donc, c'est pour dire que cet enfant a un risque très, très, très faible. Mais le cas de cet enfant et du couple est vraiment compliqué.
Valérie, ce qu'on fera, Franck, c'est qu'on va vous rappeler hors antenne, on va vous essayer de vous donner les coordonnées où il faut aller à Lusaka pour avoir le bon diagnostic pour votre enfant. Oui. Je m'occupe d'avoir les bonnes coordonnées. On vous rappelle, Jeanne Tcherkefos vous rappellera après l'antenne. Valérie Leroy, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, alors, je voulais juste préciser que vous avez compris, c'est compliqué. C'est compliqué, mais en même temps, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Et aujourd'hui, on n'est pas démunis et on a des outils, à la fois pour diagnostiquer les enfants, pour trouver des traitements, pour essayer de chercher. Et la recherche doit continuer avec le soutien des bailleurs et en particulier de l'ANRS en France, l'Agence nationale de recherche sur le sida, qui nous aide et qui nous soutient à promouvoir des projets de recherche dont on sait qu'on a besoin pour essayer de trouver des traitements plus simplifiés. Parce qu'aujourd'hui, les traitements sont compliqués. Et vous avez compris, ils ont aussi des problèmes de toxicité. Et aujourd'hui, on doit pouvoir et on est en capacité de diagnostiquer le traitement tôt, de donner un traitement tôt aux enfants. Et pour ça, il faut les diagnostiquer tôt. Et c'est vraiment clé pour leur donner le moyen de survivre. Et ensuite, de trouver des traitements simplifiés. Et là, on n'a pas encore toutes les clés. Et la recherche est devant nous. Et on a l'espoir que ça pourra continuer pour essayer d'améliorer la survie des enfants aussi. Et un peu à l'échelle globale. aller en Afrique en prenant des situations très différentes comme l'Afrique du Sud, Lusaka, ou l'Afrique de l'Ouest, qui est une situation très particulière où l'accès est moins facile.
Vous êtes en train de me dire en retard par rapport à l'Afrique anglophone.
Oui,
c'est ça que vous êtes en train de me
dire.
On peut le dire comme ça,
mais c'est pas les mêmes structures.
Je rajouterai un dernier point, docteur Mathurin Tedjokem. Je pense que par rapport à ce qu'on vient d'entendre, tout ça très bien, mais il faut encore des médecins qui expliquent bien, ou du personnel soignant qui explique bien les choses aux patients.
Tout à fait. La question de la formation du personnel, formation continue dans le cadre de cette prévention de la transmission mère-enfant, de la prise en charge des enfants, du bon message à passer aux parents et de prendre le temps aussi pour expliquer ça, c'est
absolument indispensable. Un mot de conclusion, docteur Philippe Mzelati, aller chercher les enfants dans les zones les plus reculées, entre autres.
Oui, il faut aller chercher les enfants où ils se trouvent. Les enfants infectés, par leur immense majorité, ce sont des enfants de mères VIH+. Et il est curieux de noter que dans très peu de pays, il y a des recommandations pour dire, dans les associations de personnes VIH+, dans les essais de personnes VIH+, testez vos enfants. Testez vos enfants jusqu'à 15 ans, parce que vous êtes VIH+, vos enfants sont exposés, même s'ils ne sont pas malades, ils ne sont peut-être pas encore malade. Et donc, je pense que réellement, c'est ça qu'il faut se dire et faire passer comme message à
tout le monde.
Dépister au sein des familles séropositives et au sein des essais où on suit les personnes séropositives.
Merci beaucoup à tous les quatre. En tout cas, encore un bel exemple de coopération Nord-Sud. Demain, on sera toujours à cette conférence à Montpellier et on parlera plus précisément des hépatites. Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions au 33 1 84 22 75 deux fois. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé, Manu Pochaise ici à Montpellier, Didier Bleu à Paris, et on se retrouve demain.